présenté par Marie-Françoise Eolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Rentrée scolaire et universitaire, au croisement du bilan et des perspectives, le conseil de cabinet du mois de septembre s'est tenu cette matinée à l'immeuble Étoile, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Goûté. Quatre membres du gouvernement en charge du secteur éducatif ont délivré des communications sur l'encadrement et la formation universitaire et sur le parcours effectué depuis la rentrée scolaire. Oslo met aux arrêts Luc Ayabasho. Le leader amazonien a été arrêté par la police norvégienne. Le collège des avocats des victimes des exactions séparatistes, conduit par Maître Emmanuel Nsalaï, s'est réjoui de cette arrestation. L'avocat international annonce que la traque des terroristes va s'intensifier. Conflits intercommunautaires et promotion du vivre ensemble. Un appel pour une cartographie des circonscriptions administratives en conflit ou à risque. Appel de Peter Massani Moussongue, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a présidé ce matin à Yaoundé en colloque. Sport, aigle royal de la Ménois contre Colombe du Djaïlobo. Les joueurs et leur staff retiennent le souffle dans l'attente de la finale de la 64e édition de la Coupe du Cameroun. Les deux équipes ont reçu hier l'appui financier de l'État des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelekombi. C'était au cours de la réunion préparatoire. Rentrée universitaire scolaire au Cameroun, au premier banc de l'auditorium de l'immeuble Étoile ce jeudi, le Premier ministre chef du gouvernement, c'était à l'ouverture du conseil de cabinet de ce jour, Joseph Dion Goûté, a demandé d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire des personnes disparues dans les régions en crise du fait des inondations et des malversations terroristes. À la suite du chef de file, les quatre membres du gouvernement en charge du secteur éducatif sont montés au créneau. Les communications délivrées ont permis de prendre connaissance des nouveaux programmes qui vont désormais encadrer la formation universitaire et d'évaluer le parcours effectué depuis la dernière rentrée scolaire. À la prise de note, notre correspondante permanente à l'immeuble Étoile, Laurentine Bocono.
Les habits neufs de l'enseignement supérieur au Cameroun, ils sont arborés par le maître dresseur de l'écurie, le professeur Jacques Femme Dongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Après l'examen national BTS, dont l'élaboration du nouveau programme s'est achevée en septembre 2023, les programmes du cycle de licence des grandes facultés classiques ont été revus et harmonisés entre toutes les universités d'État. Ils seront mis en œuvre graduellement à partir de cette rentrée universitaire. À 20 nouveaux, outre neuf, deux importants programmes de développement des infrastructures et d'équipement des universités d'État sont actuellement en cours d'exécution. Il s'agit du programme présidentiel de reconstruction des universités de Berthois et Bolova et Garoua et du programme d'appui à la composante technologique, professionnelle et facultaire de l'enseignement supérieur. En tout état de cause, l'objectif demeure la consolidation en 2024-2025 de l'université entreprise et du statut de l'étudiant entrepreneur. À une échelle plus accessible, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'emploie à veiller au respect des standards et normes. Depuis la diminution du coût de la formation professionnelle à 50 000 francs CFA par le président de la République, le ministre Issa Tchiroma Bakary observe comme un regain d'intérêt pour les centres publics de formation professionnelle. Le nombre de candidats au concours d'entrée est passé du simple au triple depuis l'année de formation 2022-2024. Rendu à sa deuxième semaine, l'année scolaire 2024-2025 présente des indicateurs en constante évolution, attestant de la reprise effective, progressive et sans heurte des activités pédagogiques, selon l'évaluation du professeur Laurent Sej Etunzingwa, ministre de l'Éducation de base. Même scénario au niveau des enseignements secondaires. Sur la foi du dernier pointage effectué le 9 septembre dernier, le module effectivité de la rentrée entrée est validée avec quelques variations suivant les régions. À l'ouverture du conseil de cabinet de ce jour, Chief Dr Joseph Dion Gauthier a demandé d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire des personnes disparues dans les régions en crise, soit du fait des inondations, soit du fait des malversations terroristes. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
Lutte contre le terrorisme au Cameroun, le Collège des avocats des victimes des exactions séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conduit par Maître Emmanuel Nsalaï, se réjouit de l'arrestation du terroriste Lucas Ayabasho, natif du Nord-Ouest, et salue l'action de la justice norvégienne. L'avocat international annonce que la traque des terroristes basés à l'étranger va s'intensifier contre 180 donneurs d'ordre. Augustin Guizana.
Lucas Choayaba, c'est le leader autoproclamé du groupe séparatiste appelé Conseil de gouvernance de l'Ambazonie. L'État virtuel qui couvre les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au cœur d'une crise sociopolitique sans précédent depuis 2016. Il est aux arrêts en Norvège où il résidait depuis quelques années. Le cabinet Maître Emmanuel Salaï, au nom des victimes de la crise sociopolitique, s'en réjouit. L'avocat international salue l'action de la justice norvégienne contre les donneurs d'ordre et indique que c'est un pas de plus dans la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Ils sont au total 180 donneurs d'ordre traqués par la justice américaine, une trentaine déjà aux arrêts. Il faut dire que Choayaba Lucas est le deuxième dirigeant du pays fantôme de l'Ambazonie qui est aux arrêts après Siseko Julius Ayuk Tabe, qui avait été lui aussi interpellé au Nigeria, ainsi que 9 co-accusés. Tous ont été jugés et condamnés au Cameroun le 20 août 2019 à vie. Douala. Augustin Guizana, CRTV.
L'arrestation de Lucas Ayabasho pour la justice par la justice norvégienne suscite de nombreuses réactions de satisfaction. Pour l'avocat international Emmanuel Nsalaï, ce chef de groupe terroriste opérant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest doit répondre de ses actes devant la justice des hommes. Maître Nsalaï, connu pour sa croisade contre les commanditaires d'atrocités dans les deux régions en crise, affirme que la traque va se poursuivre. Je vous propose de l'écouter, il est au micro d'Augustin Guizana.
Nous avons déposé des plaintes criminelles contre Choayaba. Nous l'accusons d'être un terroriste responsable d'immenses souffrances dans les régions en crise de notre pays. Il a revendiqué de nombreux actes brutaux, y compris l'explosion d'un engin explosif improvisé en Cambay le 11 février 2024 et a joué un rôle clé dans les horribles exécutions publiques à Gouzan le 10 avril 2023. De plus, il a orchestré des enlèvements, des assassinats et des destructions massives. Son appréhension envoie un message clair. Personne ne pourra échapper à la justice s'il sème la terreur et la destruction au Cameroun, peu importe où il se trouve.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 8 minutes à Yaoundé. Disposer d'une cartographie des circonscriptions administratives dans lesquelles les conflits intercommunautaires sont récurrents et là où ils risquent de survenir. C'est le vœu du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussongue procédait ce matin à l'ouverture du colloque de 3 jours sur les conflits intercommunautaires et la promotion du vivre ensemble au Cameroun. Vous placez sous le très haut patronage du président de la République réunissent plusieurs experts de plusieurs secteurs. Retrouvons au palais des congrès de Yaoundé notre reporter Constant Zeu. Bonjour Constant.
Bonjour Marie-Françoise. Les premières communications du colloque ont débuté il y a quelques minutes sous la présidence du professeur Samuel Efouambozo, membre de la commission. Elle porte sur l'expérience que les Nations Unies ont dans la gestion des conflits intercommunautaires ainsi que sur les causes et statistiques de ces conflits, comme pour montrer que les conflits intercommunautaires ne sont pas une particularité du Cameroun. Avant ces échanges d'expérience, la cérémonie d'ouverture des travaux de 3 jours était marquée par des prises de parole. Le docteur Chi Asafor Cornelius, secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et coordonnateur général du colloque, a présenté les participants et experts appelés à réfléchir à la meilleure manière de prévenir, de gérer et d'éradiquer les conflits intercommunautaires au Cameroun. Le président du comité scientifique des travaux, le professeur Labbé Baudot, a rappelé que les éminences grises de tous bords rassemblées ici viennent des 10 régions du Cameroun pour plus d'inclusivité dans la recherche des solutions. Dans sa leçon inaugurale en français et en anglais, le professeur Paul Abuna, anthropologue, a montré que le Cameroun a toujours connu des conflits entre des communautés et esquissé des pistes de solutions pour les maîtriser. Selon le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la situation des conflits intercommunautaires au Cameroun est grave et nécessite des solutions novatrices et urgentes. Peter Mafani Moussonguet appelle de tous ses voeux les participants à aider la Commission à avoir une cartographie des unités administratives dans lesquelles les conflits intercommunautaires sont récurrents ou risquent d'éclater. Parler des congrès de Yaoundé, Constance Z pour le 13 heures.
Après avoir rappelé les multiples conflits intercommunautaires enregistrés au Cameroun ces dernières années, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme souhaite sortir des travaux de Yaoundé avec des solutions concrètes. Écoutons Peter Mafani Moussonguet dans cet extrait de discours sélectionné par Constance Z.
À l'issue des présentes assises, mon vœu le plus ardent est qu'avec la contribution des universitaires et chercheurs, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que des représentants des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que d'autres personnes de bonne volonté, la Commission puisse disposer d'un document recensant de manière aussi exhaustive que possible les facteurs, les circonstances et les propos déclencheurs des conflits intercommunautaires et dressant un état des lieux à l'échelle nationale, régionale, départementale et éventuellement par arrondissement. Disposer des données lui permettant de faire la cartographie des circonscriptions administratives dans lesquelles les conflits intercommunautaires sont les gens au risque le plus d'éclater.
Les différences ethniques et les conflits fonciers sont source d'affrontements intercommunautaires et de propagation de discours de haine au Cameroun. Révélation faite au cours de la cérémonie d'ouverture de ce colloque de Yaoundé par le président de la Commission nationale, Peter Mafani Moussonguet, que vous venez d'écouter. Pour éviter le pire, les experts réunis au Palais des Congrès prônent l'amour, le respect et l'acceptation de l'autre. Voici les précisions avec Ibrahim Mohamed Abassi, en ligne du Palais des Congrès de Yaoundé.
La diversité ethnique et l'accès inéquitable aux ressources sont les principales causes des rivalités intercommunautaires au Cameroun. À cela s'ajoutent, selon les experts, les conflits agropastoraux et la désignation de chefs traditionnels. Professeur Abbé Jean-Marie Baudou, président du comité scientifique du colloque.
Il y a les discours de haine, il y a le manque d'amour du prochain qui fait que les gens puissent sortir du n'importe quoi pour mettre les gens contre les autres.
Face à ces conflits qui divisent les Camerounais, une thérapie s'impose. Professeur Abbé Jean-Marie Baudou, président du comité scientifique, et Polycarpe Woufo, expert en droit de l'homme.
L'acceptation de l'autre, l'amitié. Vous êtes du Nord, je suis du Centre. Nous sommes des frères. Nous avons des terrains d'entente. Nous avons beaucoup de choses en commun. Ça ne devrait même pas nous diviser, parce que les différences nous rendent forts.
Il faut d'abord veiller à l'égalité dans le partage des ressources. Parce qu'il ne faut pas qu'un certain groupe mange et les autres sont là en train de les observer. Ça énerve.
Les Camerounais, dans leur diversité ethnique, religieuse et socioculturelle, sont ainsi appelés à promouvoir la paix et l'unité dans leurs localités respectives. Palais de congrès de Yaoundé, Yannick Ayangma, Ibrahim Mohamed Abassi, CRTV.
Les conflits, parfois nés de situations ordinaires entre les communautés, prennent des allures de guerre dans l'esprit de certains. Au bout des tiraillements, aversions, destruction de biens et même pertes en vie humaine. Une addition salée qui mérite de disparaître. Autant la gestion de ces crises est délicate et parfois longue, autant la prévention des conflits pourrait s'inscrire comme méthode efficace. Rabia Toufou Daoutou. 2021, des affrontements éclatent entre éleveurs arabes choua et agriculteurs mousgoum. L'accès à un point d'eau dans le Logone-Chari, la source du désaccord. 2023 puis 2024, des heurts violents entre Bamoun et Tikar autour d'activités culturelles à Magba génèrent de vives tensions dans le Noun. 2023, Tupouri, Kako et Massa se confrontent suite à une accusation de vol sur un chantier minier dans la KDI. Il s'agit là de quelques morceaux choisis, échantillons d'un phénomène devenu courant et dont le dénouement, bien souvent, mène au pire. Les conflits intercommunautaires naissent, se multiplient et se propagent malgré les mises en garde incessantes. Ils prospèrent au gré des animosités anciennes ou naissantes et des susceptibilités enfouies ou acquises. La propagation de ces tensions qui divisent les communautés sème la haine et plombe le vivre ensemble. À travers le pays a déjà donné lieu à une vague non négligeable de mesures visant leur éradication et de messages destinés à la sensibilisation. Il faut certes décrier le phénomène et gérer les crises qui se succèdent, mais il faut surtout se mettre en mode proactif afin de tuer les velléités à la racine bien avant qu'elles ne poussent et gangrènent. Appliquer la tolérance zéro aux discours de haine qui ont fait des médias traditionnels ou sociaux leur nid, dénoncer le repli identitaire, sanctionner toute forme de dérapage, mais encore et aussi maintenir la sensibilisation des communautés sur la nécessité de tolérer, accepter, dialoguer. Il y va de l'équilibre de la société, du respect des valeurs constitutionnelles, de la promotion de l'unité nationale, cet idéal au cœur des priorités du Cameroun.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 16 minutes à Yaoundé. La revue des projets routiers en exécution sur l'ensemble du territoire national se poursuit ce jour au ministère des Travaux publics. Les organismes impliqués dans la réalisation des infrastructures routières apprécient le rythme de l'exécution des travaux et élaborent des stratégies pour stimuler les rendements des entreprises sur le terrain. Les réseaux routiers de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest et du sud retiennent l'attention des travaux. Le Cameroun fait face à des défis majeurs en matière de surpopulation carcérale, avec des taux d'occupation dépassant parfois la barre des 500% dans certaines prisons. Une réalité alarmante qui ne cesse d'aggraver les conditions de vie des détenus et de remettre en question le respect des droits humains, et cela en dépit de nombreux efforts des pouvoirs publics. Face à cette situation, le consortium Avocats sans frontières et le réseau camerounais des droits de l'homme procèdent en ce moment au lancement du projet d'appui à la gouvernance carcérale en abrégé PADOC. Pour les détails, nous avons en ligne du Mont-Fébé notre reporter Coralie Laetitia Imini.
Au Cameroun, les prisons font face à une grave surpopulation. Une situation aggravée par la prolongation des détentions provisoires qui concernent 58% des détenus en attente de jugement. Le projet d'appui à la gouvernance carcérale lancé ce jour vise principalement à désengorger les prisons en promouvant une approche centrée sur la réhabilitation plutôt que sur la punition. Financé par l'Union européenne et le barreau de Paris Solidarité, ce projet d'une durée de 42 mois couvrira les principales villes touchées par la surpopulation carcérale, notamment Douala, Yaoundé, Bafoussam, Samboya, Bamenda, Garoua et Maroua. Les acteurs impliqués dans cette initiative sont nombreux. Les avocats joueront un rôle central en offrant une assistance juridique aux détenus vulnérables, tandis que les organisations de la société civile sont appelées à encourager des réformes durables. La dimension humaine est aussi au cœur du projet, avec une priorité donnée à l'insertion socio-professionnelle des détenus. À cet effet, un programme d'accompagnement sera mis en place pour leur offrir des perspectives d'avenir dans le but de réduire le taux de récidive. Cette initiative, perçue comme cruciale, s'inscrit donc dans la lutte pour la dignité et les droits des personnes privées de liberté. Hôtel Mont-Fébé, Coralie Laetitia Emini pour le 13h.
De l'espoir à l'horizon pour les populations riveraines de la route à Bomban-Lomier dans la région de l'Est. Le programme de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente, Padi Dja, annonce le début imminent des travaux de bitumage de cet axe routier. Sur le terrain, les opérations d'identification des biens impactés sont en cours. Le projet charrie un grand espoir dans cette contrée, jusqu'ici confrontée à la dure réalité de l'enclavement. Voici le reportage de Charles Abosso au bas à Lomier.
Dure journée pour Aziz. Coincé au milieu d'un bosquet, le mauvais état de la route a eu raison de sa voiture.
On n'est pas à l'aise. Chaque jour, on est en panne.
Mais avec le début imminent des travaux de bitumage, le bout du tunnel pointe à l'horizon et l'espoir des lendemains meilleurs apaise les peines d'aujourd'hui.
Ça va nous aider parce que même avec ça, le prix de transport a baissé. Parce que si la route est bien, ce qui est sûr, c'est qu'on va plus, on va faire moins d'une heure, Lomier à Bomba.
Ce projet routier, longtemps attendu ici, vient désenclaver l'un des plus grands bassins de production agricole de la région de l'Est. Richard Zengletou, maire des Mindourou.
Nous vivons avant tout de l'agriculture et nous savons aujourd'hui que nos produits seront écoulés à des prix compétitifs parce que nous avons aujourd'hui accès à toutes les grandes métropoles dès lors que la route sera là.
À la tête de cet important projet, le Padi Dja, qui bénéficie de l'appui financier de la B2AC et de l'État du Cameroun. Dieudonné Abanda, chef du développement des infrastructures socio-économiques du Padi Dja.
Les travaux ont été alloutis en deux lots. Le premier lot part d'Abomba jusqu'à Mindourou et le second de Mindourou jusqu'à Lomier. Ce projet est évalué à hauteur de 106 milliards et financé à 70% par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC.
La phase d'identification des biens impactés par le projet se poursuit et les travaux de bitumage proprement dit ne vont plus tarder. Selon les responsables, Lomier, Charles Abosoloba, CRTV.
En zone CEMAC, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine rappellent à travers des notes circulaires la nécessaire application dans les faits de la libre circulation. Le contenu des instructions rappelées dans ces différentes correspondances adressées aux chefs de police de l'air, des frontières et des chefs de mission diplomatique, c'est avec Sylvain Yangman.
Instructions vous sont données d'appliquer intégralement tous les textes relatifs à la libre circulation, notamment les dispositions pertinentes de l'article 3 de l'acte additionnel du 1er avril 2019 portant adoption de la politique commune émigration, immigration et protection des frontières en zone CEMAC. Voilà de manière transversale les instructions contenues dans les lettres circulaires du directeur général de la police nationale centrafricaine. Bienvenue Zokwe, du ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, du message porté du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, et du communiqué de l'ambassadeur du Cameroun au Congo, son Excellence Louis-Marie Magloire Nkoum Micheni, qui va jusqu'à préciser que le laissez-passer est désormais délivré uniquement aux ressortissants camerounais n'ayant pas les documents de voyage en cours de validité en vue de leur retour au Cameroun. Des textes de rappel d'une résonance certaine à l'endroit des 51 millions d'habitants qui constituent la CEMAC. Une affaire de densification du commerce, des revenus, de la réelle acceptation de l'autre et surtout d'une meilleure assise des politiques communes de développement acceptées par tous.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famindongo, président de la Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odonto-stomatologique du Cameroun, communique les candidats à l'examen national d'aptitude à la formation médicale, pharmaceutique et odonto-stomatologique sont informés qu'ils composeront le vendredi 27 septembre 2024 dans les différents centres selon les indications ci-après. Pour la faculté de médecine et des sciences biomédicales, de l'Université de Yaoundé 1, sous-centre 1, faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, sous-centre 2, École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, sous-centre 3, campus principal de l'Université de Yaoundé 1, faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala, Logbesu, PK17, Faculty of Health Science de l'Université de Bamenda, Faculty of Health Science de l'Université de Bouya, Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Tchang, Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Garoua, Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université des Bolova à 100 millimètres. L'appel des candidats se fera à 6h30 précise. Il leur est rappelé qu'ils doivent se munir uniquement de la carte nationale d'identité valide, de la fiche d'inscription en ligne et d'une calculatrice non programmée. Par ailleurs, les listes des candidats autorisés à prendre part à cet examen sont disponibles et affichées dans les centres d'examen. Les candidats peuvent d'ores et déjà aller les consulter. La troisième édition de l'opération Un cartable pour l'école, un chemin pour la vie aura lieu demain vendredi 27 septembre à Monatélé. C'est une initiative du député RDPC de la Liquié, Chantal Evelyne Tassi Aïssi. Aigle royal de la Ménois, colombe du Djaïlobo, les joueurs et leur staff retiennent le souffle dans l'attente de la finale de la 64e édition de la Coupe du Cameroun de football dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les deux équipes ont reçu hier l'appui financier de l'État, des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi. C'était au cours de la réunion préparatoire. En attendant d'en découdre dimanche, Aigle et colombe ont eu des fortunes diverses au cours de la saison faite de haut et de bas. Samuel Billon.
Le trophée de la Coupe du Cameroun de football comme dernier rempart pour sauver une saison sportive mal emballée en championnat, Aigle de la Ménois retient son souffle. El Pacha n'évoluera pas la saison prochaine en première division, mais bien à la classe nationale inférieure. C'est une nouvelle rechute à MTN Elite 2, à peine deux saisons après le retour à la Cour des Grands. La faute en partie au match nul à la dernière journée à Yaoundé contre Colombes, 0-0. Redoutable en défense, efficace au milieu de terrain et très adroit devant les buts adverses, l'Oiseau du Sud s'est illustré de fort belle manière à la phase de groupe du championnat, bilan une quatrième place au classement général annuel. Avec des résultats impressionnants depuis les 32e de finale de la Coupe du Cameroun, 5 victoires en 5 matchs, une machine offensive broyeuse, 13 buts inscrits, aucun concédé, la série de clean sheets à valeur de record dans la conquête de Dame Coupe. Aigle a eu moins de succès, 7 buts marqués contre 4 encaissés, 2 victoires dans le suspense des tirs au but en 32e de finale contre Girondins de Ngaoundéré et en 8e de finale face à l'Union sportive d'Abomban, Épervier de Bolova, FC Mbalmayo et Mintak Football Club. Aigle n'a survolé que des clubs de région. Mais là s'arrêtent les statistiques qui donnent un a priori favorable à El Pacha, une victoire et un nul en confrontation directe cette saison avec Colombes. Le match de la finale de la Coupe du Cameroun est une autre paire de manches.
À propos justement de cette finale de la Coupe du Cameroun, le ministre de la Communication invite les professionnels des médias désireux d'assurer la couverture médiatique de la cérémonie de clôture de la saison sportive 2024, couplée à la finale de la Coupe du Cameroun, à bien vouloir déposer au ministère de la Communication leur dossier de demande d'accréditation composé ainsi qu'il suit. Pour les professionnels des médias nationaux ou étrangers exerçant de manière permanente au Cameroun, une demande timbrée au tarif en vigueur signée du directeur de publication mentionnant les noms, prénoms des membres de l'équipe de reportage, une copie de la carte de presse en cours de validité, une quittance de versement de 100 000 francs CFA versée auprès de la régie de recettes du Mincom pour les médias étrangers, une photocopie du passeport pour les médias étrangers, une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour en cours de validité de chaque membre de l'équipe de reportage, une copie de la dernière édition datant de moins d'un mois pour la presse écrite. Pour les professionnels des médias étrangers exerçant de manière temporaire au Cameroun, un formulaire de demande d'accréditation timbré à 1500 francs, CFA accompagné d'un ordre de mission, deux photos d'identité récentes agrafées au formulaire, une photocopie du passeport en cours de validité, pièce attestant de l'appartenance au métier de journaliste ou à toute autre profession annexe, quittance de paiement de 100 000 francs CFA versée à la régie de recettes du Mincom, une réservation d'hôtel ou une attestation de prise en charge par le partenaire au Cameroun, une liste du matériel professionnel utilisé en précisant les caractéristiques. Les dossiers complets seront reçus à la direction du développement des médias privés et de la publicité au plus tard le 26 septembre 2024 à 15h30. C'est signé le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Tournoi zonal de l'UNIFAC, qualificatif à la CAN 2025, deuxième journée de compétition ce jeudi. À 16h au stade Alphonse Massamba Déba, le Congo-Brazzaville joue contre la Guinée équatoriale. Les Lions indomptables U20 affronteront l'actuel leader du groupe B, la République centrafricaine. En jeu de cette rencontre, Didier Marius et Tounis.
Match à haute intensité cet après-midi entre les Petits Fauves de la République centrafricaine et les Lionceaux du Cameroun. Ultime rencontre pour la RCA après sa victoire face au Gabon. Le visa pour le second tour est le principal enjeu. Le Cameroun joue cette rencontre en toute confiance, tout en respectant l'adversaire. Ivan Kemoué, entraîneur du Cameroun.
Nous avons vu cette jeune équipe de la Centrafrique qui a déroulé, a gagné 2 buts à 1. Sur le plan mental, je crois que nous sommes très bien galvanisés vu que nous avons fait des matchs de préparation qui nous ont permis déjà d'engendrer quelques axes positifs. Je pense que les enfants et l'ensemble du staff technique, nous avons bossé pour cela. Aujourd'hui, il peut avoir une victoire, il peut avoir une défaite, il peut avoir un match nul, mais après, ce qui nous amène au Congo, c'est la qualification pour la prochaine CAN.
Les joueurs entendent mouiller le maillot pour obtenir un résultat positif. Nathan Douala, capitaine.
Très bon état d'esprit depuis Bangkok. On a préparé nos matchs et c'est un match très capital. Ils vont rentrer avec la victoire.
Même en cas de faux pas ce jeudi, les Lions U20 vont livrer leur second match samedi prochain contre le Gabon afin de décrocher le ticket pour les demi-finales. Seuls les finalistes sont qualifiés pour la CAN U20 en 2025.
Open CEAC Sambo Yaoundé, les sambistes camerounais affûtent leurs dernières armes. Les amateurs et fans sont impatients de voir briller les lions du sambo dans cette compétition qui s'ouvre demain vendredi. 12 nations sur 15 sont présentes dans la capitale. État des préparatifs à 24 heures de l'événement, Armand Linjek.
Deux fois, voilà, deux fois je change, je trace bien mon B.
Renforcement musculaire, ultime réajustement au point, le tout dans un esprit lion pour briller de mille feux à cette première édition d'Open. Ongene Timi, vice-capitaine de l'équipe nationale d'âme de sambo, promet la victoire.
Moins de 72 kg dans les sambo combats, deux fois champion d'Afrique en sambo combat et troisième mondial au championnat du monde de sambo beat. Je vous promets rien d'autre que la médaille d'or comme d'habitude. Je me base sur ce que nous avons fait, sur le travail que nous avons eu à faire avec les coachs. Ça a été dosé et ça mérite des médailles d'or.
En dépit du stress, les lions du sambo ont déjà avalé la frousse.
En tant qu'ancienne et vice-capitaine, je fais de mon mieux pour les réveiller, pour les booster en fait.
Devant les adversaires, enthousiaste de détrôner le Cameroun, l'entraîneur national, Achan Williams, rassure.
En Afrique, le Cameroun, ce sont les autres pays qui nous redoutent. On n'a pas à redouter les autres. Les athlètes sont assez fins, prêts pour pouvoir rugir et défendre les couleurs de l'équipe nationale Cameroun.
Constitués majoritairement des champions d'Afrique et des vice-champions du monde, les spécialistes du sambo de combat et de sport entendent garder la couronne du grand maître.
Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokoso-Joki.
Good afternoon. An evaluation of the start of the 2024-2025 school year in Cameroon, pedagogic activities and the situation of the training and teaching administrative staff has been made in Yaoundé. This is at this month's cabinet meeting chaired by Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gauthier, during which the ministers in charge of education in Cameroon ascertained an effective resumption of classes for the new school year across the country. The American-based human rights advocate, Barrister Emmanuel Nshalai, renowned for his crusade against proponents of separatist terrorism in Cameroon, has saluted Norwegian authorities for arresting the separatist ringleader, Lucas Ayabacho. Barrister Nshalai has reiterated that the crusade will continue and intensify until retributive justice is achieved against promoters of terror in the northwest and southwest regions. The president of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has called for the mapping out of administrative units where inter-community conflicts are recurrent, as well as those susceptible to such conflicts. Peter Mafane Musonge was speaking today in Yaoundé at the start of a three-day colloquium on inter-community conflicts and the promotion of living together in Cameroon. A project to combat torture in prisons, reduce overcrowding, facilitate equitable access to justice by inmates and guarantee their socioeconomic integration has been launched in Yaoundé. Baptized the Prison Governance Support Program, PAGOC, the three-year initiative targets 40 communities and seven regions of the country suffering from acute prison challenges. These and more at 3 p.m.
Ce communiqué du ministre des Finances à tous les conseils fiscaux agréés, CEMAC, qui est inscrit à l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Il les convie à l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui se tiendra le jeudi 24 octobre à Yaoundé à l'hôtel Hilton dès 10h. Il convie donc tous les conseils fiscaux agréés. L'ordre du jour portera sur un seul point, à savoir le renouvellement des organes. À titre de rappel et conformément au règlement intérieur de l'Ordre, l'Assemblée générale est constituée de tous les conseils fiscaux inscrits au tableau de l'Ordre. Article 8, alinéa 1, les stagiaires inscrits sur la liste annexe de l'Ordre sont autorisés à participer aux travaux de l'Assemblée. Ils peuvent y prendre part, mais n'ont pas le droit de vote. Article 8, alinéa 3, les conditions de participation et d'éligibilité sont celles contenues dans les procès-verbaux des réunions du 2 février, 7 mai, 23 mai et 23 juillet 2024 tenues avec le directoire de l'Ordre. Le mode de scrutin retenu est le scrutin des listes. Chaque membre peut représenter deux autres électeurs sur la base d'un mandat dûment établi. Les dossiers de candidature sont attendus au comité de gestion mis en place au plus tard le mardi 24 septembre 2024 à minuit. Le ministre des Finances remercie tous les membres de l'ONCFC, soucieux de la redynamisation de la profession de conseil fiscal. Et puis, cet autre communiqué du ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique, numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk, accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 237 691 881 881 pour les contribuables résidents à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. À retenir de cette édition qui s'achève, rentrée scolaire et universitaire, au croisement du bilan et des perspectives, le conseil de cabinet du mois de septembre s'est tenu cette matinée à l'immeuble Étoile. Il était présidé par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutté. Quatre membres du gouvernement en charge du secteur éducatif ont délivré des communications sur l'encadrement et la formation universitaire et sur le parcours effectué depuis la rentrée scolaire au Cameroun. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi.